Fréquence Mistral.
Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux artistes assez incroyables de Marseille qui viennent faire un spectacle le 27 juillet au Garage Comédie. Ce spectacle, il se nomme Sum and the City. C'est un 3x20, donc 3 humoristes qui viennent sur scène pendant 20 minutes pour venir rigoler avec vous et passer un très bon moment. Donc je l'ai dit au début, on n'a pas pu avoir les 3 parce qu'elles n'étaient pas dispo en même temps. Donc pour le moment, on a dans nos studios Pauline Péclit et Marie Pasto. Bonjour à toutes les deux.
Salut.
Bonjour.
Non, ouais, j'ai réussi à faire cette présentation qui m'a pris beaucoup de temps aujourd'hui.
Bravo Yacine, j'ai bien ton rythme, bon, il n'y a pas de souci.
C'est un grand plaisir, merci. Merci Marie de me parler comme si j'étais ton petit cousin avec des problèmes de retard mental. Marie Pasto, Pauline, on a pas malheureusement Gaëlle Gorgo qu'on salue. Pourquoi elle ne pouvait pas être là aujourd'hui?
Parce elle est en vacances.
Avec sa famille en plus, donc c'est une raison très valable.
Ah oui, et ça va lui faire pas mal de blagues, je pense, pour la suite, donc c'est pas si mal, non?
Absolument. Je pense que ça va être constructif.
Pauline, Marie, on parle de ce spectacle et vous êtes là aujourd'hui pour ça, Sum and the City, donc pas Sex and the City, on est bien clair, Sum, comme le Sum, le fait d'être dégoûté, triste, pas content. Donc ce spectacle, je me suis dit que les meilleures personnes pour le pitcher, c'était vous. Est-ce que vous pourriez me le présenter déjà, si vous deviez le présenter à quelqu'un?
Alors justement, on s'est fait la réflexion, si on devait le pitcher, on revient du Festival d'Avignon, si on devait le pitcher dans les rues d'Avignon, on dirait brièvement, c'est l'histoire de 3 femmes trentenaires qui ont rêvé longtemps d'avoir la vie de Sex and the City et qui se réveillent à 30 ans et où sont les Jimmy Choo? Hein? Mais c'est ça. Où est Manhattan? Où est Mister
Big? Où est Jimmy
Big
aussi? C'est Jimmy, quoi.
Et Charlie, enfin, pardon. Non, non, ouais. On la garde pas. Non, voilà, grosso modo, c'est 3 trentenaires qui évoluent dans le monde d'aujourd'hui et qui rencontrent beaucoup de seum, mais qui, par chance, ont de très bonnes copines pour le partager. Voilà. Et donc, on en fait des drôleries.
Oui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a cette alchimie, ou en tout cas cette énergie qui circule entre vous trois, parce que vous avez toutes les trois ce regard un petit peu, en tout cas, qui se dégage dans les vidéos, un petit peu blasé, star, mais qui ne se prend pas du tout au sérieux, en vérité. Et c'est vrai que New York et Marseille, il y a peut-être une connexion, mais ce n'est pas la même que celle qu'on a connue dans la série.
Non, je pense que c'est les rats, la connexion.
Ouais, c'est vraiment ça, ouais.
Et justement, donc ce spectacle à trois, comment il... Parce que d'habitude, je vous l'explique, ce que je demande aux humoristes quand ils viennent présenter leur spectacle seul en scène, c'est comment ils ont débuté le stand-up. Bien sûr, après, on va essayer de savoir comment vous avez débuté le stand-up, vous, séparément, mais j'aimerais savoir comment ce spectacle est né, où il est né et quand, quoi.
Au garage, il est né. On était en cours au garage et on nous a dit, à la fin de l'année, il va falloir faire un spectacle. Et nous, on était toutes les trois assises à côté, puis on était déjà très proches. On s'est fait amis très proches, en fait, au garage. C'était vraiment nous trois, quoi. Donc, on s'est mis ensemble et d'un coup, on a dit... C'est toi qui as lancé Sum and the City, non? L'idée.
C'est Gagou.
C'est Gagou.
Le titre, c'est Gagou.
Voilà. Mais direct, on s'est mis ensemble et on a dit, allez, ça part 3x20.
Exactement. C'était évident pour nous de travailler ensemble. Quand on a des bonnes relations amicales, on a forcément envie de travailler avec. Et par chance, là, on fait toutes les trois le même métier. Donc, c'était possible.
Mais vraiment, ça nous a pris 5 minutes à se décider. Hein. On a dit, allez, on part sur ça. On est parti sur ça. Évidemment, on est allé boire une bière pour conforter l'idée, tu vois. Je crois qu'on partait toutes sur la même.
Vous avez conforté l'idée bien en amont aussi, non? Parce que j'ai l'impression que je vous ai vu un paquet de fois en terrasse.
On ne juge pas.
Non, je ne suis pas là pour juger, c'est une interview sympathique et bienveillante.
Mais c'est pas vrai, on ne boit pas du tout que des bières, on boit surtout des mojitos, en fait.
Et du pastis.
Oui, bien sûr, et du pastis, oui, puisque c'est des cocktails marseillais, il ne faut pas bien oublier quand même. Oui, mais on ne fait pas la promotion de l'alcool, bien sûr.
Non. On cherche toujours modération, mais...
Et du coup, ce spectacle, vous l'avez écrit ensemble ou justement, parce que pour préciser aux auditeurs auditrices, le stand-up c'est un seul en scène, hein, on se retrouve seul face au public, mais il arrive des fois qu'on ait des co-auteurs, co-autrices, qu'on travaille à plusieurs. Là, vous avez écrit chaque partie indépendamment l'une de l'autre ou vous avez essayé de les travailler ensemble?
Un peu les deux, mon capitaine, c'est-à-dire qu'on a un petit peu travaillé chacune de nos côtés. Moi, par exemple, j'écris avec quelqu'un d'autre, un co-auteur. Et les filles chacune individuellement, mais bien sûr on fait des mises en commun régulièrement, on a un groupe exprès sur WhatsApp pour
se
dire...
On se fait tout valider, ouais.
Ouais, c'est ça, et puis on s'invalide aussi beaucoup de
choses. Ouais, on s'invalide. Non, mais c'est important d'avoir des amis qui te disent Non. T'es sûr? Pas sûr, moi.
Ouais, ça permet d'avoir des retours sur... c'est vrai que l'humour, c'est quelque chose qui est un peu particulier. Contrairement à plein d'autres arts, on est obligé d'avoir le retour du public ou en tout cas de l'extérieur pour savoir ce qui est drôle ou pas, puisque pour trier, c'est dur. Hein. Moi, des fois, ça m'arrive de rigoler beaucoup seul et puis de me rendre compte que ça fait pas rire bon grand monde.
Ouais. Clairement,
c'est d'une tristesse, mais de toute façon, c'est pour ça qu'on fait ça aussi.
Ah, mais je dis à ma copine qu'on comprend pas l'humour à chaque fois qu'elle rigole pas. Mais donc, du coup, vous avez travaillé ce spectacle ensemble. C'est vrai que moi, je me demandais si vous aviez mis un fil rouge entre chacune. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tient ce spectacle entre chaque passage, en tout cas?
Le fond du spectacle, c'est le seum. Donc, ça va être chacune avec ses galères, en fait. On n'a pas les mêmes galères, mais on parle de ça, on parle de nos galères et on essaye d'en rire ensemble. Oui, il y a un fil rouge quand même entre les trois.
De plus en plus. Ouais. C'est-à-dire qu'à la première, le fil rouge était encore un peu timide. Là, pour la deuxième de dimanche, on l'a un peu épaissi. Et c'est vrai qu'à terme, on aimerait qu'il y ait vraiment un gros fil rouge qui nous traverse toutes les trois. On amène petit à petit, chacune dans nos sketchs individuellement, des points de rendez-vous. Okay. On en a un qu'on veut pas rater, qu'on va peut-être pas divulguer.
Non, on va pas le dire
maintenant. On va pas divulguer tout ça.
Mais ouais. À terme, on aimerait même être les trois sur scène en vrai.
Ouais.
On aimerait avoir un moment où on est toutes les trois sur scène pendant bien 10 minutes, un quart d'heure, voire plus.
C'est ça, hein, pourquoi pas inclure du théâtre tout simplement là-dedans.
Ah bah, c'est une transition parfaite pour ma prochaine question, parce que votre équipe, en dehors du stand-up, vous avez aussi des couteaux suisses, puisque vous avez des multiples compétences. Bien sûr, Marie qui est une danseuse contemporaine, donc qui utilise son corps pour parler en plus de sa voix. Pauline qui est prof de théâtre, si je ne m'abuse. Et Gaëlle, je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Donc mon enquête s'est arrêtée à...
Gaëlle, elle a travaillé dans la communication pendant un long moment et là, elle fait du montage, elle fait du travail sur...
Là, elle a lâché son taf, Gaëlle. Hein. Elle a lâché son taf.
Elle est au chômage.
Pour se consacrer à ça. Ouais, c'était une gap. Elle dessine aussi, elle peint.
Exactement.
Donc, elle aimerait vendre ses toiles aussi. Elle aimerait avoir son intermittence pour pouvoir vivre de la vie d'artiste, la vie de bohème.
Oh, ok, parce que vous deux, vous avez l'intermittence, on est d'accord?
Moi, je l'ai, ouais.
Moi, je suis en train de la faire. C'est mon année blanche.
Machallah, félicitations à vous deux et Gaëlle, bon courage à toi. Mais donc, du coup, ces multiples compétences que vous avez, donc le théâtre, la danse, le dessin, la communication, les réseaux. Pour Gaëlle, comment qui apporte le plus au trio? Ça, j'aime bien mettre la zizanie comme ça.
Vraiment, c'est vraiment très partagé. Hein.
Ouais. Ouais.
On a chacune nos trucs.
Que ce soit sur les idées, on s'auto-alimente les unes les autres, que ce soit sur la réflexion de ce qu'on voulait dire au travers de ce spectacle, les idées de communication, les projets futurs aussi. On est pratiquement tout le temps d'accord, et quand on n'est pas d'accord, on est ouverte au débat et au mojito. Donc,
ça se règle toujours autour d'un mojito au final, comme dans la série au final, Summon the City, mais on finit toujours autour d'un verre. Quoi.
Ouais, c'est vrai que c'est assez bien réparti entre nous.
J'arrivais sur cette question, je voulais savoir justement si, comme dans un groupe de rock, il y avait une leaduse ou au contraire si c'était parfaitement équitable et équilibré entre vous.
Non, franchement, il n'y a pas de...
Non, il n'y a pas de leader.
Ah ouais, donc vous arrivez à...
On est des suiveuses. Oh.
Vous suivez toutes les trois les cocktails, en fait, au final.
Et l'avantage d'être trois, c'est que si on a un point de désaccord, on fait un vote, en fait, tout simplement.
Ok.
Et ça fait deux et un d'un côté ou de l'autre, quoi.
Ah, oui,
moi, je suis un peu la Suisse, en vrai.
Souvent.
Tu es celle qui dit non, je me prononce pas.
Non, moi je tempère les deux.
Ah, exactement. Okay. On a deux caractères un poil excessif.
Oui.
Et c'est vrai, donc du coup, cette première au garage, comment elle s'est passée? Comment vous avez ressenti? Puisque vous faites beaucoup de stand-up déjà, mais là c'était autre chose. C'est les gens qui ont payé pour venir vous voir, vous, et ce spectacle en particulier. Racontez-moi ça.
C'était trop bien.
C'était incroyable.
Déjà, moi, dis-toi, mon passage, je l'ai regardé que hier.
Ah oui.
Ouais, alors c'était la première, c'était le 29 avril. Et non, j'ai pas regardé le passage. J'osais pas regarder le passage, j'avais trop peur de regarder le passage. Mais c'était trop bien, c'était la folie. Il y avait toutes nos familles. Nos familles, elles se sont rencontrées.
Ah.
Ouais, il y avait que des amis dans la salle.
Puis c'est vrai que le format 20 minutes, moi en tout cas, j'ai largement préféré que les formats de 5 minutes qu'on peut faire dans les comédie clubs classiques. Parce qu'en 20 minutes, t'as vraiment le temps de laisser le spectateur rentrer dans ton univers. Et une fois qu'ils ont commencé un peu à te connaître, ça roule tout seul, en fait. Là où tu les emmènes, ils te suivent, ils te font confiance. Parce que tu leur racontes ta propre vie, mais ils savent un peu plus qui tu es. Ouais. Et ça pour toutes les trois, quoi.
Ouais, ça permet de, du coup, de créer une connexion beaucoup plus profonde avec le public et d'aller beaucoup plus loin avec le public.
Il y avait une ambiance de fou, c'était trop bien,
c'était incroyable.
Il y avait un cocktail. Il y avait des cocktails partout dans la salle, j'imagine.
Ouais, des cocktails spéciaux.
Des cocktails spéciaux.
Ah, il y avait des cocktails spéciaux. Mm-hmm. Et est-ce que tout le public avait les jambes croisées un peu comme dans Sex and the City et regardait ça avec un petit air condescendant ou...
Non, non, le public était à fond avec nous. C'était. Ça criait, ça rigolait. On avait des sortes de blagues qui n'étaient pas censées être des private jokes, mais que des gens ont compris quand même comme des private jokes. Et puis, on se fait des petites références les unes aux autres aussi sur scène.
Ouais, vous faites des petits clins d'œil.
Des petits clins d'œil.
Et toi, Pauline, justement, qui viens du théâtre, qu'est-ce que c'est la différence ? Qu'est-ce que tu ressens de différent par rapport à une scène de théâtre classique en stand-up ?
Bah, principalement l'absence du quatrième mur, hein, à partir du moment où on n'a plus cette barrière de... au théâtre, on travaille beaucoup avec, par exemple, avec les dieux, quand on fait de la tragédie, on va s'adresser à quelque chose qui est plus grand que nous, et le stand-up, je trouve que ça reconnecte au réel. Mmh. On est en direct avec les gens, et ça ment pas. Si la vanne, elle est pas drôle, ça rigole pas, on le sait direct. Il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de « vas-y, tu fais un texte de Shakespeare, alors je t'écoute ». Ouais. Là, c'est vraiment, c'est toi qui parles. Bah, vas-y, prouve un peu. Mm. Et du coup, tu dois y aller avec du courage et de l'aplomb, quoi. Hein, mais c'est trop kiffant.
Justement, toi, Marie Pastorelli, en tant que danseuse, je me demandais qu'est-ce que sont les... Enfin, quelle différence on peut ressentir entre face à un public qui vient nous voir sur scène danser et un public qui vient nous voir sur scène parler et faire rire.
Ouais, bah, tu vois, moi, au début, tout le monde me disait « Ah, oh, toi, ça va, t'es danseuse, tu vas t'en sortir, genre, t'as l'habitude de la scène et tout. » Alors, j'ai l'habitude d'avoir la lumière, genre un spot, tu vois, ça me dérange pas. Souvent, les premières scènes, ils disent ça, oh là là, la lumière, c'est fort, tu sais, pour les yeux.
Ouais, ouais.
Bon, ça, moi, ça va, tu vois, la scène et tout, c'est vrai que je suis à l'aise. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir. Moi, quand je danse, déjà, la plupart du temps, je défends pas mes chorégraphies. C'est des chorégraphies de chorégraphes. Moi, je suis juste interprète. Là, c'est moi qui écris mes textes. Déjà, en danse, je parle pas.
Ouais.
Tu vois, et puis en plus, moi, ça fait 29 ans que je danse, tu vois. Donc là, le stand-up, j'ai commencé. C'est comme si je démarrais tout à zéro, en fait. À part l'aisance sur scène, on va dire.
Ouais.
Enfin, le fait d'assumer d'être sur scène devant des gens. Mais sinon, c'était tout est différent.
Ouais,
après, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, j'ai ce truc physique, tu vois. Ou quand je joue des personnages ou quoi, enfin, j'aime bien la physicalité dans le stand-up, tu vois. Par exemple, Pablo Caillo, je trouve qu'il a une physicalité dans son jeu, et ça, j'adore. Tous les humoristes qui, en général, engagent le corps dans le jeu, j'aime trop.
Ouais, c'est vrai qu'on le voit, t'as l'impression que chaque muscle est contracté pour venir jouer le personnage complètement.
Je trouve que ça rajoute un truc, quoi.
Ah bah, clairement, oui, le public ne se trompe pas, hein, mais après, c'est là où on voit la différence. Souvent, les gens qui viennent du théâtre aussi, on le ressent très vite, puisque sur les act-out, comme on appelle ça, donc les moments où on joue un autre personnage que soi, souvent, ils sont très, très engagés physiquement et tout, là où d'autres, ça va être juste le visage ou juste une position pour les humoristes, on va dire, plus classique.
Tu vois, Gad Elmaleh, il était avec une danseuse étoile, et ça se ressent dans son jeu, je trouve.
Ah, tu le vois ?
Ah oui. Pour moi, Gad, il est dans le corps, quoi, quand il joue.
Ah ouais,
je pense vraiment que je pense qu'il a bossé avec Aurélie Dupont, il me semble que c'était avec elle qu'il était, hein. Je ne veux pas dire de conneries, mais il était avec une danseuse, c'est sûr.
Il était aussi avec une princesse monégasque.
Oui,
donc,
mais alors là, je ne sais pas si ça lui a rapporté dans le corps, mais...
on sait où ça lui a rapporté.
Ça lui a rapporté.
Allez, ça dérape, c'est parti. Non, mais c'est vrai qu'il y a, pour ma part, là, je reviens d'un festival où j'ai vu beaucoup de concerts de musique. Et je sais que les artistes sur scène, quand ils chantent, je me suis dit, en fin de compte, c'est la même chose de voir des artistes chanter ou danser ou faire du théâtre, parce que je trouve qu'il y a une histoire d'énergie qui se crée. Et c'est comment faire perdurer, monter cette énergie et la garder pendant une demi-heure, une heure avec le public. Donc, une connexion autre. C'est vrai que je me demandais si les artistes comme vous qui avaient cette double casquette ou en tout cas cette double compétence, ça apporte quelque chose avant de débuter ou sinon il y a vraiment pas de plus, quoi.
Alors moi, je dirais que le plus principal, c'est que en tout cas pour ma part, j'avais déjà répondu à la question de pour qui on fait ça. C'est-à-dire que sur scène, on dit souvent il faut être généreux, mais il faut pousser cette réflexion. Oui, il faut être généreux parce que si c'est pour faire du stand-up toi dans ton salon, bah reste dans ton salon. Il faut être généreux parce que c'est pour le public que t'es là. Il y a une part de narcissisme, c'est pour toi.
Bien sûr.
Mais la majeure partie, c'est pour faire rigoler les gens.
Ouais.
C'est pour faire rire tes potes, bah, à nouveau, va en terrasse et prends à tout hasard un mojito, enfin ce que tu veux, mais bon, en tout cas.
Pauline qui avait vraiment aujourd'hui de mojito, je pense qu'il est 11h30 du matin, c'est l'heure pour elle d'attaquer le premier de la journée, ça lui manque. Elle a pas eu son petit déj au mojito comme prévu. Non, oui, je comprends ce que tu veux dire dans la générosité de la proposition, en tout cas ouais. D'aller toujours plus loin. Justement, ce 3x20, est-ce que vous pensez à le faire évoluer et continuer ce partenariat? Puisque je le dis aussi, il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux où vous travaillez ensemble pour promouvoir ce spectacle, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de plus derrière. Moi, quand je vois les vidéos, je me dis, ouh, c'est pas qu'un spectacle, il y a autre chose qui arrive, mais je sais pas si mon intuition est bonne. Donc,
Ah, si, si, tout à fait. Hein, ouais. Je vais me permettre.
Alors
de...
après, est-ce qu'on l'a voulu dans les vidéos? Non, tu vois, c'est bizarre qu'il dise ça, parce qu'il le sent, alors qu'on l'a décidé quand? La semaine dernière, en vrai.
Après, j'ai un sixième sens très, très développé en tant qu'intervieweur, je tiens à le dire.
Déjà, okay. ça se voit. Ouais. Ça se voit. Non, et puis, c'est peut-être pas conscientisé, ou alors ça a été conscientisé récemment, mais si, on a quand même voulu que nos vidéos racontent quelque chose, même sans la voix, puisque nos vidéos sont toujours sur un fond musical, on a quand même voulu raconter quelque chose, et en termes d'évolution, je crois qu'on peut le dire, hein. On aimerait par exemple faire le Festival d'Avignon l'an prochain.
Ah ouais, ok, d'accord.
Ouais, génial. On aimerait bien. Ouais.
Mais en pluridisciplinaire, tu vois. Pas uniquement dans la section humour, mais dans la section théâtre, peut-être un petit peu dans la section danse, dans l'idée qu'il y ait un bel éventail de belles femmes, quoi. J'ai envie de foutre.
On sait pas encore comment on va le tourner, mais c'est ça que je te disais tout à l'heure. On aimerait bien aussi avoir des moments où on est trois sur scène. C'est dans cette optique-là, en fait.
Ok, donc, donc il y a vraiment une évolution avec une recherche, ou en tout cas l'idée d'aller beaucoup plus loin dans tout ça, quoi.
Bah, nous, en fait, on se régale à être toutes les trois et à passer du temps toutes les trois. Puis en plus, vu qu'on s'entend super bien dans la vie, enfin, tous nos délires, on a une conversation de groupe, c'est. Enfin, tu vois. On aimerait. Non, mais.
Non, mais je veux dire, Pauline, qui sait qu'on va devoir couper le montage si
je ne vais pas divulguer ce qui se passe dans cette conf, c'est beaucoup trop intense. Mais je veux dire, vu qu'on a un feeling, on est amis, forcément, je pense que les gens, ils ressentent aussi ça, tu vois, au plateau, quoi, à la scène. Parce que c'est ce qui fait qu'un groupe, il tient aussi, tu vois. C'est pas juste 20 minutes, c'est un spectacle d'une heure, quoi.
Oui. C'est vraiment un spectacle d'une heure, une proposition d'une heure pour le public, et voilà, cette idée de venir parler. Justement, je me demandais si, pour les auditeurs, auditrices, est-ce que c'est un spectacle, quand on en parle, Summon the City, donc c'est des histoires très personnelles, etc. C'est un spectacle qui est adressé à toutes et tous, ou vous pensez qu'il y a une limite d'âge, une limite de genre, une limite de religion?
Non, moi, je vais aller loin. Moi. Pour moi, c'est tout public. Après, c'est vrai que je pense qu'en dessous de 10 ans, par exemple, c'est pas dit que l'enfant comprenne tout.
Ouais.
Après, il ne faut pas prendre les enfants pour des idiots. Donc, en fonction de comment ils sont, eux, ils peuvent y assister.
On parle un peu de cul quand même. Hein.
Oui, bah oui, mais bon.
Je sais que je recommande toujours moins de 12 ans, je dis au stand-up. Parents que pour les enfants, d'ailleurs.
Voilà,
parce que je me dis, c'est les parents qui doivent être à côté de leur gamin et se dire, bon, maintenant, il va falloir que je lui explique à la sortie.
Ouais, mais justement, au contraire, ça peut être intéressant d'ouvrir des questions comme ça. Parce qu'en plus, tu dis, on parle un peu de cul, ça va. On reste correct, on reste décente. On va pas dans du trash.
Oui. Vous restez dans quelque chose de tout public, on va dire.
Ouais.
Ouais.
C'est un petit oui, Marie, que tu nous as sorti.
Non, mais parce qu'après, je pense que notre cible, sans vouloir parler qu'on va cibler quelqu'un, mais je pense que ça parle aussi beaucoup aux femmes, quoi, aux trentenaires, aux femmes. Je dirais peut-être plus qu'aux hommes, mais vraiment, ça peut parler à tout le monde, quoi.
Ouais, je pense que ça peut parler à tout le monde. C'est vrai que Sam and the City, toutes les personnes qui, comme nous, ont grandi avec Sex and the City et qui sont un peu déçues, arrivées à la trentaine, peuvent se retrouver pleinement dans notre spectacle.
Ouais.
Mais ça marche aussi pour, tu vois, tiens, je prends l'exemple de mon oncle qui a 70 ans qui est venu, qui s'est régalé aussi.
Oui, et en plus, pour les hommes, c'est peut-être l'occasion d'apprendre certaines choses sur les femmes qui ne connaissent pas, puisque l'envers du décor, on va dire, entre guillemets.
Et de comprendre peut-être aussi un peu mieux certaines de nos réactions.
Oui,
effectivement.
Ça, c'est pas dit pour tout le monde, mais effectivement. Mais c'est vrai que, alors, je dois vous le confier, hein, moi, c'était à une époque où la virilité était beaucoup plus, beaucoup plus importante, ou en tout cas il fallait laisser paraître beaucoup plus de vérité. C'était mon péché coupable de regarder Sex and the City en cachette. J'ai beaucoup beaucoup regardé, j'avais notamment les DVD aussi que j'ai suivi, donc voilà, c'est quelque
alors
chose que...
T'es qui?
Moi, clairement, moi, j'étais Carrie, hein, sans me poser de questions.
Bon,
ah ouais, je trouvais qu'il y avait un côté, elle ratait tout, mais de manière flamboyante. J'ai toujours aimé ces genres de personnages qui ratent tout, mais toujours de manière assez belle. Et en plus, si on regarde avec du recul maintenant à 30 ans, on se rend compte qu'elle ratait pas tant que ça, puisqu'elle travaillait dans un... Elle avait le job de ses rêves, elle avait un super appartement, elle avait beaucoup plus que ce que j'ai maintenant.
C'est...
Donc, mis à part ses histoires avec Big, elle avait quand même une vie assez sympathique, quoi.
Ah oui, très.
Ouais. Miranda, c'était une vie un peu plus dissolue, je me reconnais pas trop dans ça, mais sans juger, hein, sans mettre de...
C'est trop drôle ce qui est en train de se passer.
Mais oui, parce qu'en plus, moi, je suis Miranda, donc du coup, c'est hyper drôle qu'il me dise elle a une vie un peu plus déconstruite. T'es chez moi ce matin, ou c'est comment, en fait?
Non, mais c'est vrai que je suis un peu plus carré. Donc mais vous étiez qui du coup dans Sex and the City?
Moi j'aurais été Carrie aussi, je pense.
Ah, Carrie Bradshaw, ouais. Ouais, Carrie Bradshaw, est-ce que vous pouvez la présenter rapidement aux auditeurs et auditrices qui...
Carrie Bradshaw, c'est une femme de 30 ans qui a deux objectifs dans l'amour, dans la vie, pardon, articles de mode et amour. Et elle arrive très bien à concilier les deux avec un style incroyable. Et le problème, c'est effectivement dans ses choix amoureux, elle va un peu trop dans tous les sens parce que je pense qu'elle n'arrive pas forcément à exprimer ce dont elle a vraiment besoin. Mais peut-être qu'elle ne le sait pas elle-même, en fait.
Non. Ah oui, c'est Pauline qui est allée 10 fois plus loin dans l'analyse que ce que j'aurais pu faire.
Mais Pauline, elle les a regardées 10 fois.
Depuis que j'ai 12 ans, je le regarde tous les ans. Donc j'ai tous les DVD, j'ai l'affiche, j'ai tout.
Mais c'est marrant parce que si on regarde les Américains, ce qu'ils ont promu ou en tout cas mis en avant et qui a vachement, je pense, impacté notre génération, c'est deux séries de femmes, donc Desperate Housewives et Sex and the City, mais deux styles de femmes qui avaient des vies complètement, on va dire, opposées, entre guillemets, même s'il n'y a pas d'opposition, mais entre donc, les citadines du centre-ville qui font la bomba et qui ont une vie vachement libre, etc., enfin libre dans leur choix. Et le Desperate Housewives, là, c'est clairement des femmes de banlieue qui sont dans leur foyer clôturé, bon, qui ont quand même une vie très riche, on se rend compte dans la série, mais qui sont dans ces deux extrêmes entre guillemets qui nous ont été présentés. Donc vous avez décidé de prendre vraiment le côté citadine libre.
Oui, mais en fait je pense que les deux séries parlent de la liberté des femmes, mais tu peux être très libre même en étant en cage, et tu peux te sentir tout à fait emprisonné même en étant en apparence très libre.
Ouais.
Ce qui est le cas par exemple justement de Miranda dans Sex and the City.
Oh là là, qu'est-ce qu'elle parle bien, tu vois.
Bah, à chaque fois, je me dis ça, ouais, j'ai impressionné. Justement, je voulais arriver sur cette question, Pauline, Marie. C'est la question de vous, en tant que femme dans le stand-up, quand vous avez débuté, est-ce que vous avez vécu des obstacles ou des stéréotypes? Enfin, est-ce que vous avez fait face à des stéréotypes ou des obstacles qui vous ont surpris ou en tout cas désarçonné au départ?
Moi, personnellement, non.
Alors, moi, un petit peu, ça m'est déjà arrivé très concrètement qu'on me dise que j'étais le quota féminin. Qu'on m'appelle en me disant tiens viens faire telle date, et puis quand j'arrive sur place je suis impatiente parce que je suis débutante, je me dis ah on me laisse une chance, et le MC qui me reçoit et qui me dit bon sois drôle hein, t'es notre quota féminin ce soir hein. Ouais. Vas-y hein, parle de cul hein.
Sérieux?
Ouais je ne divulguerai pas les noms, mais oui j'ai déjà eu ce genre de petite réflexion, ou alors le classique de non franchement c'était drôle pour une femme, c'était sympa.
Pour une femme ça c'est oui.
Bon, après c'est vrai que t'arrives souvent sur des plateaux où t'es la seule meuf hein.
Ouais bah quand il y en a une en fait.
Ouais quand il y en a une.
Oui, c'est vrai qu'il y a une, aujourd'hui dans le stand-up, et encore plus avant, maintenant un peu moins, mais il y a un gap. Non, il y a une parité qui n'est pas du tout respectée, mais parce qu'il y a beaucoup plus d'humoristes hommes que d'humoristes femmes.
Oui.
Alors il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'il y a ce stéréotype de on rigole plus entre couilles parce que les femmes vont venir nous parler leurs règles, leurs mecs, elles vont venir taper sur les hommes, on n'a pas envie d'entendre ça, alors que pas du tout. Enfin en fait, homme ou femme, on est être humain, on vient parler de nos galères d'être humain, après t'acceptes de l'entendre ou pas. Mais c'est juste que quand on voit une femme humoriste sur scène, on croit qu'elle va vouloir taper sur les hommes ou que sais-je. Par exemple, les 100% femmes, je suis toujours très étonnée qu'il y ait une majorité de public féminin.
Ouais.
Alors que ce serait beaucoup plus intelligent que ce soit une majorité de public masculin. Non seulement ils apprendraient des choses juste sur un sexe dont apparemment ils ont envie, hein, et en plus, même pour l'avancée, comment dire ça, je vais partir dans un truc politique, mais l'avancée de la liberté des femmes en fait, tout simplement. Ça
nous concerne tout.
Mais je me connais, je sais.
Non mais tu peux aller dans un truc politique, il y a pas de souci, justement on est en liberté là, on peut parler tranquillement, donc justement tu peux aller au bout de ton propos. Moi il y a pas de...
Je pense que la cause féministe concerne tout le monde, puisque il faut rappeler la définition, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est pas... Je sais que le terme fait peur, mais en réalité, féministe, c'est pas du tout la liberté que des femmes.
Oui, bien sûr.
Si les femmes sont libres, les hommes le seront encore plus.
Ouais, mais on le rappelle, on essaie de le rappeler assez souvent, mais c'est vrai que je pense que le problème, c'est que les entre guillemets anti ont mis en avant l'idée que les féministes étaient extrêmes, etc. Alors ça, c'est toujours quelque chose qui me, quand on me dit les féministes extrêmes, je me dis, ce qui est extrême, c'est quand même les violences, etc. C'est pas le fait d'avoir des idées ou en tout cas d'argumenter ces idées, mais on est souvent dans cette situation et dans beaucoup d'oppression, en fait, si on regarde bien, on finit souvent par reprocher aux groupes réprimés, oppressés, sa condition et en tout cas lui dire qu'il est responsable de ce qu'il vit. Donc c'est pas simplement les femmes, hein, ça peut être toutes les formes de racisme, d'exclusion, d'homophobie, etc. On se rend compte qu'on finit toujours par dire oui mais regardez vous faites ça, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, comme si on pouvait légitimer la violence que le groupe subissait.
C'est ça, mon tonton disait c'est souvent les cons qui font le plus de bruit. Ouais. Parce que tu vois, je pense par exemple aux masculins, aux incels, pour rester dans la thématique des femmes, hein, mais en fait, ils sont pas si nombreux. On s'aperçoit que la majeure partie des mecs qu'on fréquente, ou alors c'est peut-être nous qui avons des bonnes fréquentations, je sais pas, mais la majeure partie des mecs qu'on fréquente, ils sont complètement d'accord avec ça, ils sont complètement solidaires, ils font pas d'actes répréhensibles.
Non, mais même si on demande à la plupart des gens, si on leur demande est-ce que vous êtes pour l'égalité homme-femme, la plupart ils ont une mère, ils ont des sœurs, ils ont des cousines, ils sont. Tout le monde est d'accord, c'est sur le format qu'ils ont plus du mal, c'est l'application qui est compliquée. Mais ouais. Bon, on est en train de sortir de Sum and the City, mais c'est ma faute aussi, c'est ma faute. Donc aujourd'hui, je voulais savoir si vous deviez avoir une invitée dans ce spectacle, que vous pouviez, par exemple, sur un sketch à la fin, si vous pouviez ramener une humoriste, qui vous ramèneriez avec vous pour venir. Ça peut être n'importe quelle humoriste, vivante, morte, américaine, française.
Ah ouais, d'accord, ok.
Ah oui, vous avez vraiment un choix très large. Ça peut être une comédienne, ça peut être une danseuse, ça peut être une scientifique, ça peut être qui vous voulez.
On a droit à avoir plusieurs réponses.
Allez, vous pouvez mettre plusieurs special guests. Qui vous faites rentrer sur la scène avec vous?
Moi, j'avoue que Linda Lemay...
Ouais, la Linda chanteuse,
ouais. Ouais. Ah ouais. J'adore ses textes depuis toujours.
Ah ouais.
Mais après, ça, c'est en...
Ah, Marie, il n'a pas l'air du tout chaud pour Linda Lemay.
Non.
C'était un « ah ouais » dégoûté qui venait des profondeurs.
Non, mais moi, je suis en train de réfléchir. Je ne me vois pas, en fait.
Après, en stand-up, enfin, en humoriste, Mao Drama.
Ouais.
Ah oui, oui.
Clairement.
Ouais.
Et...
Je sais pas, moi je vois personne en fait, on est bien à trois, y'a quoi. Genre c'est notre spectacle. Non mais par contre ce qu'on peut dire c'est qu'on a une première partie, ça on peut le dire.
Ah pardon. Oui bien sûr.
Pardon, Céline Dion.
Ah, bah, rien oui. Que ça ma...
Rien que ça, il a dit qui on veut.
Oui.
Ça, bah, t'es d'accord qu'on reçoit
Christina
Céline Dion
Aguilera, alors.
On prend Céline Dion en pépé, non?
Ouais.
T'es d'accord ou pas?
Ouais, Christina.
Peut-être pour clôturer plus qu'en première partie, je pense que non.
Oui, c'est vrai qu'on va être dedans, sinon.
Ah ouais, c'est vrai que
parce qu'après, Céline Dion... ouais, non, mais Céline Dion, Linda Lemay, moi, j'aime beaucoup. En tout cas, je valide ses choix. Hein. Marie, non, Marie, elle veut personne.
Moi, Christina Aguilera, si on en fait rentrer une, c'est burlesque, c'est... Waouh, ça
pète. Ok, donc c'est quand même des chanteuses. On voit qu'il y a quand même l'esprit spectacle hein, qui ressort... Donc ouais, ça serait ces trois-là. Donc Christina Aguilera, Céline Dion et Linda Lemay.
Ouais, mais du coup, on a une première partie qui est Jenna, une élève.
Ah oui, Jenna, oui, bien sûr, ouais.
Qui est en première année au garage et qui est super d'ailleurs.
Hilarante.
Hilarante. Ouais. Carrément, on lui donne le terme hilarante.
Elle est trop chou, elle nous a même fait un sketch où elle nous inclut dans son set et tout.
Ah oui, elle a travaillé
elle a
pour... Je l'ai vu très très drôle sur pas mal de plateaux. C'est vrai qu'elle a beaucoup tourné, elle a une grande motivation aussi de Jenna pour commencer. On sent qu'il y a une génération justement qui arrive sur Marseille qui est très motivée ou en tout cas déterminée à aller loin, donc ça fait plaisir à voir. Vous n'êtes pas de Marseille, hein, ce qu'on se disait en off avant. Ouais. Toi, Pauline, tu viens de Toulouse, donc la ville rose. Toi, Marie, tu viens de...
Moi, je viens de Saint-Raph.
Ah, Saint-Raph. Ah oui, ça y est, elle a pris son accent de Saint-Raph de suite quand elle a commencé à en parler. Donc, Saint-Raph égale c'est Gardanne. Donc, Saint-Raph, Toulouse, qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce qu'on sait que Marseille, ça apporte aux humoristes marseillais la gouaille, cette énergie assez starbée qu'on peut retrouver ici dans la ville. Vous, le lieu d'où vous venez, vous pensez qu'il vous amène quoi? Mis à part de la moula, Marie.
Non, même pas. Si seulement. Non, moi, je suis partie jeune, en vrai, de Saint-Raph...
Saint-Raphaël, hein, pour les gens.
Oui, Saint-Raphaël,
c'est vrai
pardon.
Que c'est un petit peu plus mal ça.
Saint-Raphaël. Ouais, non, je suis partie jeune, donc j'ai pas vraiment eu cette empreinte, tu vois, identitaire de la ville d'où je viens. Après, c'est vrai que j'ai un petit côté Côte d'Azur quand même. J'ai quand même un petit côté Côte d'Azur. Qu'est-ce que ça m'apporte? Des blagues.
Ouais.
Des blagues. Mais après, ouais, en vrai, c'est tout. Hein. En vrai, c'est tout.
C'était une belle déclaration de Marie à Saint-Raphaël. Et toi, Pauline?
Moi, j'ai commencé à vraiment aller beaucoup voir du stand-up quand j'habitais encore à Toulouse. Mm-hmm. Donc, pendant plusieurs années, j'ai écumé tous les comédie clubs de Toulouse, les naissants, ceux qui sont morts, ceux qui sont renés de leurs cendres, etc. Et je crois que c'est là que j'ai décidé, ok, je ferai du stand-up. Après, j'ai décidé de quitter Toulouse parce que, en toute sincérité, ça s'embourgeoisait beaucoup.
Ok.
Et moi, j'ai grandi dans un Toulouse où c'était un peu comme à Marseille, en fait. Hein. Tout le monde se mêlait de tout, on se regardait, on se souriait, on se parlait, que ce soit dans les transports, dans la rue, un peu partout. Je trouve que c'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais j'aime toujours autant Toulouse puisqu'il y a ma famille.
Ok. Voilà. Donc, pas le choix. Et pour avoir vécu à Toulouse, c'est vrai que c'est une ville qui est très joyeuse. Moi, ce que je disais, c'était une sorte de Marseille sans la mer puisque c'est assez tempétueux. Mais à Toulouse, on peut vite se faire des copains, vite se faire des embrouilles. C'est une ville qui bouillonne pas mal.
Ouais.
Plus maintenant, d'après toi?
Non, plus trop.
Ah, ça y est, ils se sont gentrifiés.
Oui, exactement. Exactement. Okay. C'est une politique de fausse gauche, quoi. Allez, je repars dans la politique.
Allez, c'est parti.
Avec... Ouais, Saint-Raph, il n'y a pas ça, hein, typiquement. Saint-Raph, tout le monde croit que parce que c'est entre Cannes et Saint-Tropez, c'est la jeunesse dorée, c'est hi-ha. Pas du tout, hein. Il n'y a que des vieux à Saint-Raph, on se dort dessus. Hein.
Ah ouais,
moi, je rentre à Saint-Raph, je dors à 21h, hein, je te jure.
C'est
la ville du sommeil, genre.
Bon, bah, écoute, c'est encore une belle pub de Marie, une belle déclaration pour Saint-Raphaël. Ville de vieux où on dort à 21h.
Ville de vieux, c'est vrai.
Oui, bah, c'est vrai que les villes de la Côte d'Azur, souvent, c'est là où les retraités vont passer leurs vieux jours.
Voilà,
hein, ils gagnent de l'argent, ils achètent une seconde propriété, puis ils vont y vivre à 70 ans. Quoi,
voilà.
Donc, on les salue, on leur fait
un
gros bisou parce qu'il bah, faut du monde pour remplir les spectacles et quel que soit l'âge, ils sont bienvenus. Donc, Sam and the City, est-ce que j'avais gardé une petite question pour la fin? Ah oui. Une question très importante. Si vous pouviez donner un conseil à une humoriste ou un humoriste d'ailleurs qui commencerait le stand-up là aujourd'hui, vous donneriez quoi?
N'écoute pas tous les retours qu'on te donne, ils sont pas toujours ni justes ni bienveillants.
Ouais. Entoure-toi bien en vrai, entoure-toi d'amis, genre.
Ouais, de personnes que tu affectionnes humainement. Ok.
Faire du réseau, c'est bien, c'est intéressant, mais rencontrer des humains, ça l'est plus.
Ouais.
Ok, donc vous misez vraiment sur ce côté humain et vous diriez entoure-toi d'amis et de gens que tu aimes.
Ouais, fais-toi des potes en fait avec qui tu vas écrire, avec qui tu vas vivre des choses, des moments que tu vas pouvoir raconter. Moi, c'est ce que je retiens le plus de depuis que j'ai commencé le stand-up, c'est Pauline et Gaëlle.
Ok. Ah ouais, toi, t'es vraiment conservatrice. Autant Pauline était chaude pour Linda Lemay, c'est une viande, c'est Pauline égale. C'est tes idoles, c'est tes amis, c'est tout à
bah
la fois.
Ouais,
quoi.
C'est nous, quoi, tu vois.
Ouais, oh, c'est mignon.
Bah ouais, c'est cool.
Tout pareil, mais un peu plus,
tu vois.
Ouais. Et Gaëlle, on dit pas du mal d'elle vu qu'elle est pas là? On peut en profiter?
Jamais.
Okay. J'ai essayé de semer la zizanie jusqu'au bout, mais je suis pas arrivé à mes fins.
Tu pourrais au mieux Sum in the City, c'est tout.
Oh. Elle vient de drop de mic. On ne la voit pas là, mais elle vient de le drop. Bon, les filles, merci d'être venues dans nos studios de Fréquence Mistral. Donc, pour vous retrouver, je le rappelle, c'est le 27 juillet, donc au Garage Comédie à Marseille. On espère ensuite encore avec des prochaines qui seront au Garage toujours.
Non, la prochaine, c'est le 23 octobre.
Ok, 23.
À l'Ardu.
23 octobre, donc à l'Art du Théâtre. Et ensuite, on pourra vous retrouver peut-être l'année prochaine à Avignon. On peut vous retrouver sur les réseaux aussi. Est-ce que vous pouvez me donner vos réseaux?
Moi, c'est Marie-du-bas Pasto, P-A-S-T-O.
Donc, Marie Pasto, pour te voir et à la fois danser et à la fois faire des blagues. Donc,
ouais.
L'ensemble de tes compétences et peut-être d'autres compétences.
Beaucoup de stories, je raconte beaucoup trop ma vie, mais okay. Les gens rigolent. Donc, écoute, c'est comme ça que j'ai commencé le stand-up, d'ailleurs. Donc,
on continue de raconter des histoires et de faire rire les gens. Et
on
toi
fait des facecams.
Et moi, toi, Pauline?
Pauline.peclit, Peclit, P-E-Y-C-L-I-T.
Ouais, donc Peclit, il manque un E à la fin, je l'ai déjà dit, mais ça c'est autre chose.
Je m'arrange avec l'administratif plus tard.
Bon, on se retrouve donc le 27 juillet au Garage Comédie pour votre spectacle avec donc Gaëlle Gorgo, Marie Pasto et Pauline Peclit. Merci à vous d'être venus dans les studios de Fréquence Mistral et,
merci à
et bonne continuation
merci.
À vous.
Merci de nous avoir accueillis ici.
Avec grand plaisir.